L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
L'Afrique dans tous ses états, c'est avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine et bonjour à tous nos auditeurs.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le thème de l'enfance, Marie-Claude. L'enfance oui. En Afrique.
L'enfance en Afrique, oui, on en avait parlé un petit peu la dernière fois et c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. D'autant que, enfin moi je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute et je sais bien que ça peut être la galère que ça peut être des fois d'avoir des enfants et de les éduquer. On voit bien actuellement aussi comme c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que ce qui frappe en Afrique, c'est le portage, on va en reparler, et le silence des enfants, c'est-à-dire que l'enfant africain pleure très très peu, voilà. Et donc, ce que je voudrais dire en préambule, c'est que finalement, il est inconcevable pour une femme en Afrique de ne pas avoir d'enfant. C'est absolument inconcevable, et c'est même quelquefois dramatique, parce que quand la femme est stérile, alors quelquefois, comme ici chez nous avant, hein, avant on répudiait toujours les femmes, sans pouvoir envisager qu'effectivement ça pouvait être aussi une stérilité masculine. Mmh. Hein. Et donc une femme qui n'a pas d'enfant, bon, souvent en plus comme on est dans des pays, l'Afrique est quand même de façon millénaire polygame, hein, ils n'ont pas attendu l'islam pour le faire et le pratiquer. À ce moment-là, on répudie la femme, ou de toute façon on en prend une seconde, hein, puisque... La polygamie est encore inscrite, hein. On peut opter pour une polygamie quand on se marie, notamment au Burkina, qui est un pays relativement avancé au niveau des lois.
Mais peut-être les femmes sont-elles de moins en moins d'accord ?
Oui, ça c'est en train
On peut le faire, mais j'ai le sentiment que...
Oui,
pour l'avoir constaté aussi.
Souvent,
qu'elles s'y opposent.
Tout à fait, je suis d'accord, Guylaine. Alors c'est vrai ça, mais il est vrai aussi que même si l'homme, sous la pression féminine, parce que quand même, les femmes ont du pouvoir,
faut pas dire
la femme africaine n'a aucun pouvoir, c'est des sacrées bonnes femmes.
Ils se croient forts, mais en fait...
Voilà, exactement. Mais même s'il opte, de toute façon, à un moment ou à un autre, il va aller galoper ailleurs, bon, ça c'est inscrit. Alors, on le voit partout, hein, on le voit sûrement aussi en France, hein, enfin, je ne vais pas faire la naïve, mais là, on retrouve un petit peu dans l'inconscient collectif, je pense, on retrouve un peu cette notion de polygamie. Mais c'est vrai que cette option pour le mariage, effectivement, monogame ou polygame, elle est de moins en moins admise ou agréée dans la cérémonie du mariage civil. Si tant est qu'il y a mariage civil, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi mariage religieux ou mariage traditionnel, qui là-bas encore peuvent faire foi. Hein,
pour c'est les... un sujet qu'on pourra aborder un de ces jours.
Tout à fait.
La question du mariage.
Oui, la question du mariage.
Ouais.
Et donc, voilà. Et c'est vrai que c'est inconcevable pour une femme, un couple, pour une famille, qu'il n'y ait pas d'enfants qui naissent dans le couple.
Alors, est-ce que ça veut dire que l'enfant est central ?
Là aussi, ça va être le sujet de nos discussions, nos échanges là qu'on va avoir. L'enfant, quelque part, il est central, effectivement. Il légitime vraiment, il donne vraiment ce sens. Et au départ, sauf quand c'est dramatique, ça nous en reparlerons avec la pauvreté. Enfin, malheureusement, il y a des cas et trop. Mais sinon, il est vraiment central et il reste... pour l'homme, c'est vrai que du coup, il y a cette espèce de dyade mère-enfant, sa femme avec son enfant. Et c'est vrai que pendant, entre 1 et 2 ans, encore un peu moins maintenant chez les femmes qui ont fait des études et qui vont travailler, mais elles sont pas encore trop majoritaires, mais sinon, le rythme et la vie de la femme et de l'enfant sont complètement associés, indissociables. Alors... On en parle et ça fait beaucoup d'envieux et ça fait l'objet de recherches d'ailleurs, c'est ce portage de l'enfant, cet enveloppement de l'enfant.
Peut-être donc... à mettre en lien quand vous disiez l'enfant, il est spectaculaire que l'enfant ne pleure pas.
Oui, tout à fait, ça a directement à voir. C'est-à-dire que, je suis tombée par hasard sur un petit blog, c'est une Africaine, hein. Je pense qu'elle est kényane puisqu'elle est retournée au Kenya, elle a fait des études universitaires, 4 ans, études universitaires, etc. Et donc elle a fait un blog que j'ai trouvé génial où elle dit que... Elle dit que elle, quand elle, de, elle, quand on en vient au chapitre des enfants, elle redevient une femme africaine typique. Et ça, moi, ça ne m'a pas du tout étonnée quand j'ai lu ça, parce qu'après, par ailleurs, bon, elle explique pas mal de choses. Mais si vous voulez, vraiment, à ce moment-là, pour elle, il n'y a pas photo. Elle est à la fois cette femme moderne qui a étudié, d'ailleurs apparemment elle s'est installée à nouveau au Kenya, elle exerce, elle est ostéopathe, en fait elle a plusieurs fonctions et vraiment des fonctions très, très, très intéressantes qu'elle exerce là-bas. Mais en même temps elle revendique cette africanité voilà, en tant que mère, que future mère, etc. Et donc j'avais lu aussi auparavant un petit texte qui étudiait un petit peu cette histoire de portage et... Il est, donc le bébé est porté en général par la mère, mais ça peut être des femmes proches, et même c'est tout à fait, on le voit couramment, ça peut être une sœur, on peut voir des petites filles, jeunes, hein, très jeunes, portées au dos, avec toute cette connaissance de nouer ce pagne sur leur dos, etc. Et donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup penché là-dessus, et que contrairement aux bébés occidentaux, ils sont portés constamment, soit dans les bras quand on les allaite, etc., ou au dos. Et comme s'il y avait une connaissance intuitive des angoisses de chute que vit le bébé et de son besoin presque constant d'être porté, ça c'était le texte qui le dit, c'est-à-dire c'est une étude qui a été faite justement pour essayer de comprendre pourquoi il y a tant d'angoisses chez les nourrissons occidentaux, avec des pleurs donc on n'arrive pas à décoder, et pourquoi chez l'enfant africain quelquefois il est décodé, en même temps on se précipite pas tout à coup pour parce que ah là là le bébé pleure, ça va pas, etc. On supporte, on accepte, etc. Mais c'est très rare, et c'est vrai quand on va en Afrique on est très très étonné, on se retrouve dans des groupes, on se retrouve dans des bus, on se retrouve dans la rue, etc., avec et on n'entend pratiquement jamais pleurer un bébé.
Les enfants sont toujours près du corps d'une femme.
Voilà. Et donc, ce que disait d'ailleurs cette dame aussi, là, je vous la cite parce que c'est intéressant aussi, elle disait que même les bébés plus vieux sont enveloppés par l'écharpe sur le dos, protégés des éléments par une couverture supplémentaire. Voilà. Quelquefois, on ne voit plus rien de l'enfant, et l'enfant, on se dit, mais il va étouffer. Non, pas du tout, pas du tout. Et en fait, c'est comme une réplique du ventre de la mère qui est créée par l'enveloppement du tissu. Et c'est quelque chose qui, évidemment, fait que les bébés sont comme dans un cocon. Hein. Ils sont isolés des tensions du monde extérieur. Et c'est la référence.
Ils sont rassurés.
Voilà, et c'est rassuré. Ouais. Et c'est la mère qui est dans l'extérieur et qui, en même temps, avec son corps et avec son enveloppement, permet à son enfant de n'avoir aucun traumatisme, aucune angoisse, etc.
Il est d'ailleurs étonnant que le bébé, même tout bébé, juste né ou presque, soit non pas porté devant, mais derrière. Le corps de la maman fait vraiment protection. Le danger venant du devant, c'est pas lui qui est en première ligne, il est protégé.
Excellente analyse,
en deuxième ligne par le corps de la maman.
Absolument. Ouais. Et en plus, bon, comme finalement les femmes fonctionnent comme ça là-bas et qu'elles continuent quand même leurs travaux, etc. Ouais. Le fait d'avoir le bébé au dos, elles ne sont pas dérangées et elles protègent leur enfant. Et en même temps, l'enfant, très tôt, alors ça, c'est après, ce sont des professionnels qui le disent, parce que vraiment, l'enfant, très tôt, le nourrisson, il faut voir comment on porte un nourrisson, comment on l'attrape par un bras, comment on ne soutient pas son cou, parce que très tôt, il se muscle énormément, tout ce qui est le rachis. Donc, en général, ils n'ont pas de problème de dos, les Africains, justement, parce que très tôt, ils ont développé toute cette musculature, on peut les attraper par un bras, quand on les baigne, etc. Ils sont pas... Je veux dire, l'enfant n'est pas... c'est pas du sucre, c'est pas il est vivant, il se meut, et après une fois que on lui a fait sa toilette, qu'on l'a bien bousculé, etc., il se remet au dos de la mère, il retrouve son nid et il retrouve sa sécurité. Et puis même, c'est très rare, moi, quand j'ai vu comment on baigne des enfants, comment on les frictionne, comment on leur envoie du savon, parce qu'on leur la tête, on leur lave la tête tous les jours, en savonnant la tête, on leur envoie quelquefois même du savon dans les yeux. Alors, ils se secouent, et c'est rare qu'ils pleurent, très, très rare. Ouais. Des fois, ils pleurent parce que peut-être c'est la dose de trop, quoi. Mais sinon, et puis personne s'en émeut, et puis même, il y a une initiation des mères et des grands-mères. Mmh. Ça, c'est très important chez la mère. Cette initiation qui fait que la mère, elle doit Elle doit faire les choses comme on doit, elle ne doit pas s'appesantir justement, s'attendrir trop sur des choses qui sont factuelles et qui sont en plus, par exemple, laver un enfant, c'est pour le bien-être de l'enfant, ce n'est pas du tout pour le traumatiser, etc. Mmh. Donc c'est vrai que c'est des choses, et quand on va là-bas, on est vraiment voilà, ça, et puis régulièrement, l'enfant, elle le glisse sur le devant, elle l'allaite à la demande, et c'est vrai que la priorité, c'est l'enfant. Mmh. Et donc, il n'y a pas tous ces hurlements qu'on peut voir chez nous, quoi, où on ne sait pas des fois si c'est des coliques, etc., etc. Mmh. Là, le nourrisson, il est pris en charge, et puis il faut voir comment, tout le corps, il n'y a aucun tabou sur le corps de l'enfant, etc., etc. Elles ont des pratiques qui sont un peu choquantes pour nous, pour déboucher s'il y a un peu de constipation, enfin des choses, et en même temps, on se rend compte que ça fonctionne bien, parce que c'est vrai que c'est peut-être moins traumatisant qu'une maman fasse des gestes pour parce que son enfant est constipé ou a un problème, que d'introduire des produits ou des objets qui sont comme chez nous, quoi.
Et à l'évocation de ces images, Marie-Claude, moi je vois parfois en France, bien sûr, des tout petits bébés juste nés qui sont à 10 km de la maman qui les pousse dans une poussette. Je me dis, mais...
Ah ouais.
On voit le bébé parfois chercher. Qu'est-ce qu'il doit se sentir isolé, éloigné de ce qu'il fait vraiment c'est son propre corps. Les bébés jusqu'à 6 mois, ils ne savent pas distinguer leur corps du corps de celui qui la porte, de celle qui la porte, qui le porte. Donc, et je pense qu'ils... Moi, je les vois souvent, ces bébés, mais oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils doivent se sentir, mais seuls au monde.
Et moi, j'irai même plus loin. La mère un peu sauvage que j'ai été a du mal à comprendre qu'une mère mette un enfant si petit, son bébé si petit, si loin d'elle.
Ça me fend le cœur. Le pire, c'est quand elle prend son téléphone.
Ah oui, oh là là.
Ah, moi, je comprends pas.
Le summum du summum.
Je comprends pas. On a tellement envie de lui dire à cette jeune maman, mais ces 6 mois-là que tu passes avec ce bébé, c'est fini. Demain, ce sera de la fumée.
Oui, absolument.
Ouais. Allez,
musique. Très bonne observation. Nous sommes en harmonie sur notre maternité.
Absolument. Musique,
allez,
William.
Un petit peu de musique, oui.
Thank you.
sur FM+. Nous sommes en Afrique avec Marie-Claude Siakezak et nous parlons de l'enfance et on a commencé par le portage. Et oui, on a commencé par le tout petit bébé.
Voilà, on a commencé par le tout petit bébé et on a commencé par ça parce qu'effectivement, alors même si justement l'Afrique, on le sait, est un continent jeune, hein, il y a vraiment, c'est faramineux le nombre d'enfants qu'il y a. C'est vrai que déjà, ces femmes qui portent leur enfant au dos, ces bébés qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas quelquefois, où on se dit mais il doit étouffer, et apparemment ils vont très bien, donc c'est nous qui projetons nos angoisses sur eux. Et donc, on disait effectivement que leur silence, leur calme, c'est vraiment, c'est vraiment ce portage, cette proximité, et qui fait que l'enfant reste vraiment très proche de sa maman et qu'il est, comme vous disiez, Guylaine, protégé par la mère, puisque il est au dos, donc la mère, elle fait face au danger, et face au danger pour protéger son enfant, et que finalement, l'enfant, peu à peu, il se construit dans cette sécurité-là, avec aussi, après, des soins. Je veux dire, quand on fait des soins corporels à un enfant, un bébé, un petit, qu'on le masse, etc., au beurre de karité ou tout ça...
C'est énergique.
Et puis, on n'est pas en train de les soutenir toujours des tout petits, se soutiennent tout seuls, le cou et la tête, etc. Voilà. Et donc... ce que j'avais envie de vous dire, puisque j'avais fait allusion tout à l'heure à cette femme qui vit au Kenya maintenant, qui est ostéopathe au Kenya,
qui se retrouve africaine,
voilà,
qui
disait
est
que
enceinte.
Dès qu'il s'agissait d'enfants, vraiment, elle était complètement africaine, et elle offrait les messages de sa grand-mère qui a une sagesse bienveillante et à laquelle elle a eu d'ailleurs recours plusieurs fois, mais parce qu'elle est allée accoucher au village comme ça se fait là-bas, elle est revenue au Kenya accoucher au village avec toutes les matrones, toutes les femmes qui vous transmettent, etc. Et puis quand elle est rentrée en Angleterre pour reprendre le travail aussi, je suppose. Son bébé avait déjà 4 mois, donc elle avait déjà instauré tout un lien. Et donc, je vais vous offrir ce que nous a offert cette dame sur son blog, c'est les préconisations de sa grand-mère. Alors, offrez le sein dès que votre bébé est contrarié, même si vous venez juste de le nourrir. Ce qui est difficile à faire avec un biberon, puisqu'on a des doses normalement, etc., etc. D'ailleurs, moi, quand j'ai accouché, entre parenthèses, sans me prendre vraiment de mon premier enfant, qui est une fille, il y a fort longtemps, parce que je ne suis pas jeune, fort longtemps, c'était pas plus du tout la mode de l'allaitement maternel. J'étais dans une clinique, petite clinique très sympa, où nous étions seulement trois femmes espagnoles et moi à allaiter nos enfants. Et d'emblée, on a voulu m'imposer des doses, y compris on venait peser mon bébé après l'allaitement, parce qu'on comprenait difficilement que j'allaite mon enfant. Quoi. C'était pas du tout...
L'aspect donc, scientifique de la naissance.
Voilà, exactement. Alors que là, donc, elle vous explique bien voilà, que c'est à la naissance. Alors ça, très important, et ça, quand je parle de l'allaitement, souvent que des enfants, j'en parle souvent, c'est pratiquer le cododo, on appelle ça. C'est-à-dire le cododo, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, les premiers mois de vie d'un enfant, la femme, elle a son bébé à côté.
Dans son lit, à côté d'elle.
Elle est à côté de son mari, mais elle a son bébé à côté. Et donc, bien des fois, donc, elle dit que si vous allaitez alors que votre bébé n'est pas totalement réveillé, voilà, s'il pleurniche un peu, etc., et qu'il n'est pas vraiment réveillé, hop, on peut le prendre tout de suite, on le met au sein, et il se rendort rapidement, et du coup, la mère aussi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours, j'ai toujours trouvé magnifique. Alors, évidemment, on ne peut pas le faire très longtemps, puis chez nous, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais les tout premiers temps de l'enfant, pour instaurer ce lien qui permet à l'enfant, peu à peu, de prendre conscience de l'extérieur et de l'intérieur de lui, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ça, c'est pour les nourrices, pour les nounous. La grand-mère qui dit « Prenez toujours une bouteille d'eau chaude au lit avec vous la nuit afin de rester hydraté et permettre au lait de couler. » C'est-à-dire qu'effectivement, chez les occidentales, souvent, le lait, c'est souvent un problème quand elles se décident à allaiter. C'est pas toujours, c'est quelquefois assez compliqué parce que, justement, on a du lait, on n'en a plus, etc. Donc, c'est vrai que peut-être on oublie souvent de s'hydrater régulièrement. Voilà. Et donc, il faut le faire. Et donc, elle conclut en disant « Faites de l'allaitement votre priorité. » Et en particulier pendant les périodes de pic de croissance, au début quand même, c'est assez spectaculaire, la croissance de l'enfant, du bébé, du tout bébé. Et laissez vos proches autour de vous gérer le reste. il n'y a que très peu de choses qui ne peuvent pas attendre. Alors, c'est vrai que la réflexion que je me faisais et que je vous faisais, Guylaine, c'est qu'effectivement, je trouve ça intéressant parce qu'il me semble que les tout premiers mois de vie d'un nourrisson, qui a été quand même, il faut le rappeler, porté pendant 9 mois dans le ventre de sa mère, quand même. Donc, il est quand même imprégné de tout ça. Les tout premiers temps, peut-être que la place du père n'est pas de se lever la nuit. Alors, bon, après, voilà, ça se discute. Et puis, de toute façon, c'est comme ça. Mais la place du père, elle est peut-être moins de se lever la nuit pour donner un biberon. Si la femme allait, eh bien, c'est compliqué. Par contre, elle est peut-être un peu plus, et ça, c'est important, surtout pour nos sœurs là, qui allaitent, l'homme eh bien, soit un peu plus désigné pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour faire des choses, laver le linge, qui permettent à sa compagne, à son épouse, à la mère de son enfant, d'allaiter le petit, parce que c'est vrai que c'est la priorité.
En tout cas, ce qu'on comprend dans ce que vous dites, c'est qu'on préserve cette union qui ne s'est... le temps de défaire cette union qui a été construite pendant 9 mois.
Tout à fait.
Et qui perdure pendant peut-être 6 mois, en tout cas, sur une fois la naissance faite.
En Afrique, c'est plus long. Hein. En Afrique, c'est plus long. Parce qu'il y a des dispositions, même chez les femmes qui étudient, etc., qui ont des postes de travail et tout ça, elles ont quand même beaucoup, beaucoup encore de pauses. Mmh. Alors, elles font un peu comme ici en France, elles tirent leur lait avant de partir, mais elles ont aussi des pauses où elles peuvent retourner à l'été et tirer leur lait. C'est encore intégré dans les mœurs, en tout cas au Burkina, mais je pense que c'est pas le seul pays, je pense que toute l'Afrique de l'Ouest, puis même l'Afrique en général, parce que la place de la femme, elle est centrale, l'allaitement, il reste. Alors, moi, à l'époque, j'avais fait un travail de recherche sur l'allaitement maternel au Burkina Faso, mais on s'était rendu compte que finalement le taux d'allaitement des femmes au Burkina était égal à celui, parce qu'il y avait une pédiatre qui était mariée avec un Suédois, je crois, c'était le même taux d'allaitement et c'était la même disposition. On faisait tout pour favoriser l'allaitement des femmes là-bas, alors qu'en France, pas du tout. On donnait 6 biberons à la mère le matin au cas où elle n'aurait pas de lait, puis on ne s'occupait pas d'elle, quoi. Et donc, c'est vrai que c'est important. Et que c'est quand même, il y a eu un moment où ils ont quand même eu très peur. Il y a eu toute une campagne, donc il y a plus de 20 ans, puisque moi, il y a 20 ans, ça revenait déjà, toute une campagne pour lutter contre l'invasion des laits maternisés, évidemment des Occidentaux, qui avaient besoin de vendre leur lait, bien sûr. Et là, les autorités, les sages-femmes, enfin, ils se sont emparés de ça, l'UNICEF, tout ça, pour refavoriser l'allaitement, pour arrêter un peu cette espèce de contagion, d'allaiter les... Et c'est bien revenu, et c'est vrai qu'actuellement, ça fait plaisir, quoi, de voir que tout ça s'est revenu au moment où, en France et en Occident aussi, peu à peu, on réhabilite l'allaitement maternel. Et alors... Ce que disait aussi la mamie, la grand-mère, à sa petite-fille, cette grand-mère initiatrice, à qui, même d'Angleterre, qu'elle appelait quelquefois quand elle avait une petite galère avec c'était une petite-fille, elle lui avait dit, donc, lisez votre bébé et pas des livres. L'allaitement n'est pas un phénomène littéraire, il a des hauts et des bas, et des cercles aussi, c'est pas linéaire, et vous êtes l'experte des besoins de votre bébé. Donc, ça veut dire vraiment... Alors ça, c'est vrai que ça implique déjà... c'est un retour à peut-être à quelque chose de naturel, encore que chez nous, dans les milieux aisés, on avait affaire aussi aux nourrices, aux nounous, etc. Déjà à l'époque, parce que ça ne s'était pas peut-être bien vu de voir qu'il y ait une mère qui... Mais parce qu'elle avait des activités mondaines, etc. Mais c'est bien revenu et je pense que là, nous avons un peu rejoint un petit peu nos sœurs africaines et que ça dure très longtemps. Parce que quand on voit l'état de santé après on va parler de la pauvreté, tout ça, on en parlera la prochaine fois. Mais quand on voit après la tonicité, la santé, la vitalité des enfants, franchement, chapeau, quoi, hein. Voilà, après, il y a eu les vaccinations, il y a eu tout ça. On en reparlera une prochaine fois, une fois ultérieure.
Bien, cette émission s'achève, Marie-Claude Siakezak. Pour la première pause musicale, nous avons entendu Sonia Jobarté. Pour la seconde...
Eh bien, nous allons entendre Pierre Akendengue.
Pierre Akendengue.
Voilà, qui va parler de l'enfant. L'enfance, c'est un Gabonais qui nous a quittés malheureusement, qui était un sacré monsieur, qui avait été ministre de la Culture dans son pays, le Gabon, et qui avait démissionné parce qu'il n'était pas d'accord du tout avec le régime gabonais, qui, on sait, était très, très assujetti au président français. Et voilà, c'est un sacré monsieur qui a laissé un très beau patrimoine. Non seulement au Gabon, mais à l'Afrique.
Alors, voilà. On se quitte sur ces sonorités.
Au revoir à tous et à la semaine prochaine.
Voilà, on se retrouve pour une deuxième émission sur l'enfance.
Et sur l'enfance, oui, je prends.
Ama, ama, ama.